Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Êtes-vous l'un de ceux que Dieu appelle ses sanctifiés? Avez-vous jamais entendu l'expression « Zut, je me suis fait prendre » Il est rare qu'un tel aveu soit exprimé publiquement, à haute voix. Cet aveu cache évidemment une certaine culpabilité. Ce peut être l'aveu de l'enfant qui, déçu, se lamente d'avoir été surpris, découvert, la main dans le sac, alors qu'il se croyait pourtant seul, savourant du doigt la crème du délicieux gâteau que maman lui avait pourtant défendu de ne pas toucher avant le dîner. Il peut aussi s'agir du malfaiteur, surpris en flagrant délit de cambriolage par la police alertée. Il peut s'agir de ce dignitaire, de ce personnage important ou de cette star de cinéma en délit de viol ou agressant sexuellement une femme ou un enfant, même du même sexe ou du sexe opposé. Il peut s'agir du voleur à l'étalage qui, arrêté, ne peut nier son larcin ayant été filmé par une caméra. Il peut s'agir du politicien qui, bien qu'ayant crié bien haut son innocence, finit par être surpris dans l'acte, commettant quelque indiscrétion, malversation, infamie, crime, faux témoignage, diffamation ou autre. Ces scènes sont assez courantes de nos jours. Les exemples que l'on utilise avec une telle expression, sont nombreux. En fait, quel humain n'a pas, à un moment ou à un autre dans sa vie, exprimé un tel aveu ? Zut, je me suis fait prendre. C'est évidemment une réaction charnelle. Cette exclamation s'accompagne parfois d'un « aïe », d'un « désolé », d'un « toutes mes excuses », d'un « ce n'était pas si futé de ma part, ou d'un « j'aurais dû être plus prudent », ou autre quasi-justificatif, évidemment injustifié. Le problème avec cette réaction, c'est qu'elle n'a rien de chrétien. Elle doit être bannie de notre vocabulaire. Quand on dit « zut, je me suis fait prendre », on regrette généralement davantage d'avoir été vu ou découvert que l'on a de remords. On n'est généralement pas vraiment désolé de ce que l'on a fait. On ne trouve pas cela répréhensible. On aurait souhaité pouvoir continuer de faire ce qu'on faisait sans que quelqu'un vienne fourrer son nez dans nos affaires. À l'occasion, on se justifie lâchement, blâmant le système ou la société. Combien de fois avons-nous été désolés d'avoir fauté, d'avoir offensé Dieu, d'avoir mal agi? Tant d'individus baignent dans le déni, blâment les autres et sont loin d'être repentants. Aux antipodes de la réalité et de la vérité se trouve en effet une zone de défection et de déni défiant une logique particulière et toute honnêteté. Un no man's land spirituel où se retranchent volontiers les lâches, les poltrons, les fainéants et les criminels. Et parfois même, avouons-le, nous aussi. Et c'est de ce déni dont je voudrais parler aujourd'hui. Il s'agit en effet de l'antichambre, pourrait-on dire, d'une étape que tout être humain désobéissant doit franchir avant d'établir des liens solides avec son Créateur. Comme vous avez dû le remarquer, nous parlons souvent du repentir. Et si nous en parlons souvent, c'est parce que l'on mesure rarement le degré de profondeur qu'il doit avoir dans nos vies. Pour que nous puissions être conquis par Christ et avoir ses pensées. Il y va en effet de notre sanctification. Intéressant ce mot, sanctification. Le repentir est exigé de tous les êtres humains qui souhaitent être sauvés. Aucun être humain qui ne s'est pas sincèrement repenti de ses péchés n'entrera dans le royaume de Dieu. C'est dire l'importance capitale de cette étape qu'est notre sanctification, notre ultime destinée. Étroitement lié au repentir est la notion de culpabilité. Il ne fait aucun doute que nous sommes coupables. Nous avons tous décidé de faire, dans une certaine mesure, ce qui nous plaît, de faire les choses à notre façon. Pas toujours ce qui nous plaît, mais ce que nous estimons juste ou logique. Mais pourquoi se repentir? Quand Christ a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », il résumait en somme la réponse à ce « Pourquoi ?». Je dis bien « résumé » car il ne fournissait pas tous les détails, tous les justificatifs. Il importe que nous comprenions bien de quoi il s'agit. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, nous dit l'Éternel par la bouche de son serviteur et prophète Ésaïe. Reportons-nous à ce passage, si vous le voulez bien, Ésaïe 55. C'est un passage que nous connaissons bien, que nous avons lu des quantités de fois, mais reportons-nous à ce passage malgré tout, Ésaïe 55 et le verset 8. Nous débuterons avec le verset 8. Ésaïe 55, 8. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Dieu établit ici un contraste, il fait la différence entre les uns et les autres, ou les unes et les autres. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. L'univers est infini. L'infini, c'est loin. C'est très loin. C'est infiniment loin, n'est-ce pas ? Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Si nous avons le Saint-Esprit, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, de ceux qui m'écoutent, et pas nécessairement tous, eh bien cet esprit agit en nous, il nous convertit à la voie divine. Il nous donne les pensées de Christ et de notre Père Céleste, et nous devenons sanctifiés. C'est un processus, en fait un processus de toute une vie, car notre sanctification prend du temps, et je dirais même pas mal d'efforts et de sacrifices. Nous sommes chrétiens, il nous reste à le prouver. Notre sanctification résulte d'un long processus de désintoxication, de réinsertion, de décontamination. Le péché nous colle à la peau et l'extirper est seulement possible grâce à l'Esprit Saint. Je parle de désintoxication car tout être humain est intoxiqué par le poison du péché. Je parle de réinsertion car nous devons tous être réinsérés dans le règne divin, rejoindre notre Créateur. Et je parle de décontamination, pensant au nucléaire, car nous sommes littéralement irradiés par des radiations toxiques, celles des voies de Satan, et nous avons besoin d'être totalement lavés, comme dans les douches de décontamination nucléaire. Notre sanctification est en cours. Elle n'est pas encore achevée. Dans sanctifier, il y a le mot saint. Un saint, d'après une grande fausse église, c'est quelqu'un qui fait partie de cette église. Selon la Bible, les saints, ce sont les enfants de Dieu. Pas encore parfaits, mais en gestation. Notre cheminement en est un de sanctification. En effet, il faut, comme l'a dit Paul dans 1 Corinthiens 15, que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Mais comment est-ce possible? Plusieurs individus parmi la foule parlèrent un jour à Jésus de deux faits divers. Reportons-nous à ce passage dans Luc 13. Luc 13, chapitre 13 et verset 4. Quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? » Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Oh non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Le repentir se présente sous toute une gamme d'émotions. Quand on dit, hein, zut, je me suis fait piéger, je me suis fait prendre, ce n'est pas du repentir. Le repentir se présente sous toute une forme, toute une gamme d'émotions, comme je disais, de degrés divers, de prise de conscience de notre condition humaine. La première étape à franchir dans notre sanctification, une fois que nos yeux sont ouverts à la vérité, est celle d'avoir le cœur vivement touché. Le cœur vivement touché. Non seulement ceux qui écoutèrent le sermon de Pierre le jour de la Pentecôte de l'an 31, mais plus encore nous, les prémices du plan divin et les candidats à la première résurrection, les dirigeants du monde de demain, qui avons le Saint-Esprit depuis quelque temps déjà, nous devrions profondément être touchés par notre fragilité, notre impotence spirituelle, pourrait-on dire. Dans quelle mesure avons-nous le cœur vivement touché? Il est bon de se rappeler ce que déclara Pierre lors de la Pentecôte de l'an 31. Acte 2 et le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Voilà des gens qui, lorsqu'ils apprirent la vérité, lorsque leurs yeux ont été ouverts, ils ont été touchés par cela. Cela les a touchés au fond du cœur. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause ou pour le pardon de vos péchés, une meilleure traduction, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Et comme cela s'applique à notre génération. Oh ! La raison pour laquelle je reviens sur ce sujet, déjà développé plusieurs fois, c'est parce que nous remarquons que bien souvent plusieurs de nos membres n'ont pas encore dépassé le stade du « Zut, je me suis fait prendre !» L'énorme différence entre un païen, ou entre le païen et le profane, en somme toute personne non convertie, c'est qu'au lieu de se dire « Zut, je me suis fait prendre !» un enfant de Dieu en gestation, tout converti, se dit « J'ai eu tort, j'ai péché. Comment puis-je être totalement transformé, sanctifié, cesser de pécher, devenir comme mon Père céleste et son Fils Jésus-Christ ?» Notre sanctification est amorcée par notre repentir. Et selon la Bible, c'est quelque chose de très personnel, de très intime, de très profond, pas quelque chose de superficiel. Nous devons nous sentir impliqués, concernés. Un jour, nous n'aurons plus rien d'humain. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais plus je prends de l'âge, plus je deviens las d'être humain, d'être imparfait. J'ai un profond désir de revêtir Christ, d'être à côté de mon Père Céleste et à côté de Christ. Mais non seulement d'être à côté d'eux, mais d'être en communion totale avec eux. Deuxième point, notre sanctification est une expérience très positive. C'est très positif. Le vrai repentir est une expérience positive, voire même très agréable, très enrichissante et génératrice de joie. Comment est-ce que je puis dire une telle chose? Comment puis-je dire une telle chose? Quelle fut la réaction des apôtres quand on les jeta en prison pour avoir proclamé la bonne nouvelle? Furent-ils effrayés? S'apitoyèrent-ils sur leur sort? Reportons-nous à Actes 5. Actes chapitre 5. Nous étions dans Actes 2. Passons maintenant à Actes 5. Ce n'est pas loin. Acte 5 et le verset 17. Le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens et les fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison ». Soigneusement fermés, et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Mettez-vous à leur place. Quelqu'un vint leur dire, « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple. Ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers, et les huissiers les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'il les eut emmenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes, « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Verset intéressant. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Pas une mince affaire. » Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis, ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus à nouveau. Et ils les relâchèrent. Les apôtres, regardez ce qui est écrit au verset 41 maintenant. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Qu'est-ce qui peut bien nous donner ce genre d'attitude quand nous sommes persécutés, quand nous sommes maltraités? Le Saint-Esprit, notre sanctification. Si nous sommes des sanctifiés, si nous voyons les choses comme Dieu les voit, c'est comme cela que nous réagissons. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Notre repentir ne doit pas être une expérience négative et morbide, ou décourageante, ni déprimante. Car si l'Esprit Saint habite en nous, nous faisons des progrès. Et la constatation de ces progrès doit nous procurer une immense joie, car nous raisonnons et nous agissons de plus en plus comme Christ. Et si vous êtes incompris et maltraité, dites-vous bien que Christ non seulement est passé par là, mais qu'en plus il sait toutes choses. Et il connaît votre cœur. Dieu est notre juge. Nous sommes souvent maltraités et mal compris, même par nos pères, même par d'autres chrétiens et même parfois même par nos ministres. Nous ne sommes pas tous. Les ministres ne sont pas parfaits, vous savez. Je ne suis pas parfait, ça, vous le savez probablement. Alors, il nous arrive quelquefois d'être mal compris, d'être mal interprété. Matthieu chapitre 5. Mais vous savez, nous devons garder les yeux sur notre sanctification. Les épreuves, les corrections, tout ça, ça peut être positif si nous avons la bonne façon de voir les choses. Matthieu chapitre 5, verset 11. Matthieu chapitre 5, verset 11. Quel est notre désir intense en nous-mêmes? Est-ce de rester caché, qu'on ne nous découvre pas, qu'on ne voit pas nos faiblesses, ou est-ce que nous voulons être comme Christ? C'est ça la différence importante dont je parle aujourd'hui. Matthieu 5, verset 11. « Heureux serez-vous. » Il n'est pas écrit « Malheureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Non, il est écrit « Heureux » ou « Bienheureux » pour d'autres, certaines versions. Et ensuite, verset 12, « Réjouissez-vous !» Il n'est pas question de s'apitoyer sur son propre sort. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Troisième point, pour être sanctifiés, nous devons commencer par mesurer le prix que Dieu a dû payer pour notre rédemption. Et là, je ne rentrerai pas dans les détails, je pense que c'est suffisamment évident. Payez le prix. Essayez d'imaginer Christ et les souffrances qu'il a dû connaître, la vie qu'il a connue, la vie de difficulté qu'il a connue, et son procès tronqué. Et ses souffrances incroyables sur la croix. Alors nous devons aussi, si nous voulons être sanctifiés, nous devons commencer par mesurer le prix que Christ a payé pour que moi, individuellement, je sois sauvé, que mes péchés soient pardonnés, et moi et puis vous tous. Vous savez, on a du mal à imaginer ça, mais il faut prendre conscience de cela. Quatrièmement, pour être sanctifiés, nous devons avoir calculé la dépense. Et là, je voudrais dire quelque chose, c'est que lorsque nous sommes appelés et que nous faisons baptiser, nous calculons la dépense. Mais vous savez, calculer la dépense à ce moment-là, nous ne savons pas ce qui nous attend. Moi, je regarde ma vie en arrière, je dis, mais si j'avais su les épreuves que je devrais traverser, peut-être que je me serais dit, oh, j'attendrai quelque temps avant de m'engager. Mais s'engager, nous engager, calculer la dépense, c'était à ce moment-là de dire, Dieu, je te donne ma vie. Ma vie est entre tes mains, fais-en ce que tu veux. Et c'est ce qu'il a fait avec ma vie, il a fait ce qu'il en a voulu et je suis heureux comme tout que ça ait été le cas. Et nous tous individuellement, c'est cela calculer la dépense, ce n'est pas se dire, bon, mais qu'est-ce qui va m'arriver, non. Calculer la dépense, c'est se rendre compte que peu importe ce qui se passe, le plus important, le trésor le plus important, ce qui compte le plus dans la vie, c'est de suivre Jésus-Christ et de suivre notre Père Céleste. Alors, c'est ça, nous calculons la dépense. Quoi qu'il arrive, nous resterons avec Dieu. Nous allons avec Dieu. Luc chapitre 9, verset 57. Luc chapitre 9 et le verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et nous avons des gens comme cela qui viennent de temps à autre. Alors je ferai tout ce que vous voudrez. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer la tête. » À ce moment-là, il n'avait aucun endroit pour se reposer. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Ah oui, question de priorité, il y a un choix à faire là. Qu'est-ce qui compte le plus ? Dieu ou nos petites affaires personnelles ? Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, comme la femme de Lot, n'est pas propre au royaume de Dieu. » Quand on s'engage dans cette voie, on ne regarde pas en arrière, on a calculé la dépense. On a dit, quoi qu'il arrive, voilà ma direction, voilà la direction de ma vie, c'est là que je veux aller dans le royaume. Et rien ne m'empêchera de le faire. Luc chapitre 14, verset 28. Luc chapitre 14 et le verset 28, quelques pages plus loin. Luc 14, 28, « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever. » Quel insensé! Alors on calcule la dépense, mais cette dépense, vous savez, ça dépend énormément de la façon dont nous voyons les choses. Quelles sont nos priorités? Est-ce que c'est Dieu qui compte en premier dans nos vies? Cinquièmement, pour être sanctifiés, nous devons continuer de nous repentir et agir, porter des fruits dignes de la repentance, pourrait-on dire. Je le répète, pour être sanctifiés, nous devons continuer de nous repentir. Le repentir, c'est un processus qui dure toute une vie. Chaque matin, quand nous nous réveillons, nous devons nous dire, mais qu'est-ce qu'il y a encore à chambouler dans ma vie, à changer dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a encore qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois encore faire pour être davantage comme Christ, avoir ses pensées? Ces fruits sont-ils évidents dans nos vies, ces fruits du repentir? Il doit y avoir des fruits. Vous savez, s'il y a des années que vous êtes dans l'Église et que vous êtes toujours pareil, il y a un problème. Nous n'avons pas des grandes victoires, des victoires monumentales, mais nous devons vaincre. Si le Saint-Esprit est en nous, il nous aide à changer. Bon, certes, quand on regarde en arrière, on ne peut pas dire qu'on a changé énormément, mais il doit y avoir des victoires dans nos vies. Sinon, ça veut dire que nous n'utilisons pas le Saint-Esprit, cette puissance extraordinaire qui est là pour nous aider, pour nous donner la force de changer. Avons-nous en nous les mêmes sentiments, les mêmes pensées que notre Père Céleste et Christ? Voyons-nous les choses de la même façon? Bon, ça, c'est important. Avons-nous les fruits de l'esprit que sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, dont il est question dans Galates 5, 22, et auxquels nous faisons référence souvent dans nos messages? Sont-ils de plus en plus présents en nous? Regardez ces qualités, regardez ces fruits, est-ce que nous les avons? Si nous ne les avons pas, il y a un problème, et il est temps de l'adresser, ce problème. Quand nous nous repentons, nous ne cherchons plus à sauver notre peau. Nous n'aimons plus cette vie ni les choses de cette vie, mais nous nous attachons aux voies de l'Éternel, nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Nous avons hâte de revêtir notre domicile céleste, notre nature céleste. Sixièmement, pour être sanctifiés, nous devons aimer être corrigés. Ah, ça c'est probablement le plus dur. Pour être sanctifiés, nous devons aimer être corrigés, rechercher la correction. C'est pas humain, ça. Mais quelqu'un qui est converti va rechercher la correction. Si je veux être comme Christ, je veux changer. Corrigez-moi, dites-moi là où j'ai tort. Marc chapitre 8, verset 34. Marc chapitre 8 et le verset 34. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa peau ou sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Notre vie, une fois convertie, a-t-elle radicalement changé? Quel attrait le monde exerce-t-il encore sur nous? Cette étape ne se limite pas à reconnaître simplement que nous n'avons pas été très futés, à nous dire que personne n'est parfait, comme si cela nous excusait de nos faiblesses. Je veux parler d'une profonde, d'une profonde prise de conscience qui s'amplifie à mesure que les années passent. Une prise de conscience de notre intrinsèque fragilité, de nos navrantes imperfections. Je veux parler d'une quasi-rage à vouloir effectuer une reconversion totale, d'une passion fougueuse à souhaiter la transition irréversible de notre nature physique et temporaire et imparfaite vers une autre nature, totalement différente, à faire tout notre possible pour passer du charnel au spirituel, de l'égoïsme à l'amour vrai, celui de Dieu. Je veux parler d'un zèle intarissable à chercher à subir une désintoxication totale, de l'abandon total de toute forme de péché. Je me demande parfois combien dans l'Église sont conscients de la métamorphose que notre Père céleste attend de nous par le Saint-Esprit. Le vrai repentir n'a rien de banal ni de routinier. Même chose pour notre sanctification. Repentir, sanctification, cela va de pair. Et comme je le disais il y a quelques instants, il s'accompagne d'une grande joie, d'une satisfaction immense, d'une grande sérénité ou d'une paix intérieure. Quand nous voyons les fruits qui sont portés dans nos vies, si le Saint-Esprit travaille en nous, nous allons voir des fruits dans nos vies. S'il n'y a pas de fruits depuis que vous êtes baptisé, écoutez, posez-vous la question, est-ce que mon baptême est valide, est valable? Vous plaignez-vous souvent? Ah, je sais, le français aime bien rouspéter. Alors finalement, je parle au français, je me parle à moi-même. Mais vous plaignez-vous souvent? Frères et sœurs, aimez-vous être corrigés? Recherchez-vous la correction ou l'amélioration? Ou la redoutez-vous comme la peste? Quelle doit être notre optique? Sommes-nous meilleurs que tous ces géants spirituels qui nous ont précédés? Hébreux chapitre 12, verset 1. Hébreux chapitre 12 et le verset 1. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi, il amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il en a fait peu de cas de l'ignominie. Et il est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Il est facile d'être découragé, je le suis comme vous tous. Nous avons nos moments où nous sommes découragés. Mais il ne faut pas que le découragement envahisse nos vies. Nous devons nous souvenir de qui nous sommes, de notre identité. Et que nous avons besoin d'être repris, d'être changés, d'être transformés. Donc nous devons voir ces choses de manière positive. Si nous sommes affaiblis, si nous sommes affligés, c'est que Dieu travaille en nous. C'est que Dieu travaille en nous. Sinon, il laisserait les choses aller dans la direction que nous voulons. Et il ne chercherait pas à nous tester, à voir de quoi nous sommes faits. Vous n'avez pas encore, verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, ce qu'a fait Christ. Combien parmi nous ont résisté jusqu'au sang? Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et nous devons voir cela dans nos vies. Dieu nous reprend et nous châtie. Mais toujours gardons la bonne attitude, l'attitude positive. Ah, ben Dieu est en train de m'apprendre quelque chose. Il y a quelque chose que je dois apprendre dans cette situation. Le Seigneur châtie celui qu'il aime, il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils, ses enfants. Supportez le châtiment, car c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté, pour que nous soyons, en d'autres termes, sanctifiés. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, c'est normal. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés ainsi, un fruit paisible de justice. Il y a la paix qui doit venir en nous. Même au travers des épreuves, nous pouvons avoir la paix. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sanctification. Vous avez l'art d'être corrigé. Avez-vous besoin d'effectuer quelques réajustements dans votre vie spirituelle? Car notre vie est une vie de correction de trajectoire. En tant que ministre de Jésus-Christ, je pense avoir été corrigé plus que certains d'entre vous, que la plupart d'entre vous. Corrigé bien des fois. Et je suis content de l'avoir été. Parce que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui, plus forte. Mais si cela a souvent été désagréable, bien douloureux, et mon orgueil en a pris un sale coup souvent, mais ça a été tellement nécessaire pour me rapprocher de Christ. Je ne parle pas ici de brimades dont nous faisons parfois l'objet, ou de critiques injustifiées, des trop nombreuses corrections dont nous faisons parfois l'objet de la part d'individus un peu trop zélés et qui nous mènent au découragement et ont plutôt tendance à nous briser le moral. Ce n'est pas de cela que je veux parler. Sachons faire la part des choses. Je veux parler des réajustements que notre Père Céleste nous invite à faire pour que nous revêtions sa nature, pour que nous développions son caractère. C'est là une aventure personnelle souvent douloureuse et désagréable, mais qui, si nous avons le cœur au bon endroit, et c'est la clé, peut aussi nous procurer une grande joie. Rappelez-vous, le Seigneur châtie celui qu'il aime. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Le Seigneur châtie celui qu'il aime, il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Et Dieu nous châtie pour notre bien, c'est ce que nous avons lu dans Hébreux 12. Je me souviens d'une époque où certains ministres avaient une réponse toute faite à ceux qui n'étaient pas de leur avis. Et j'ai même entendu cette remarque, « Vous avez une mauvaise attitude ». Combien de fois n'ai-je pas entendu cette expression ? Ben, j'ose espérer que nous avons dépassé ce stade, comme le dit Paul dans 2 Corinthiens. Ce n'est pas que nous voulions dominer sur votre foi, mais plutôt que nous contribuons à votre joie. Et je voudrais pouvoir contribuer à votre joie par mes messages. Parce que c'est cela que le ministère est supposé faire, contribuer à notre joie. Et c'est ce que nos ministres essaient surtout de faire. Nous souhaitons plutôt exhorter, encourager et vous laisser le soin d'opérer les réajustements nécessaires dans vos vies. Il est rare qu'il faille corriger surtout toute une congrégation entière. Paul dut corriger les Corinthiens qui toléraient un péché grave au milieu d'eux. Reportons-nous à 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 1. Et si vous êtes châtié souvent, c'est probablement parce que Dieu a réellement du travail à faire en vous. Ce n'est pas toujours le cas, mais quelquefois c'est un peu notre... parfois parce que nous sommes... c'est notre propre stupidité quelquefois qui apporte ces choses. Mais Si Dieu travaille en nous, il va toujours chercher à réajuster certaines choses. Alors, dans votre vie, ne soyez pas découragés si les choses ne vont pas toujours comme vous voudriez qu'elles aillent. Rappelez-vous, si vous regardez Christ, si c'est votre point de mire en quelque sorte, si c'est ce que vous voulez dans la vie, être comme Christ, vous n'avez pas à vous en faire après. Vous n'avez pas à vous en faire. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Il s'agissait de l'Église de Dieu, pensez donc. Au nom de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Paul dut donc corriger les membres à Corinthe pour ce péché grave. Il corrigea la congrégation entière. Mais c'est rare que nous ayons à faire cela. Mais sa correction sévère porta de bons fruits. Il cherchait à protéger le troupeau de l'Éternel et à ramener un pécheur dans la bonne voie. Et leur réaction fut positive. Ils se repentirent. Et grande fut sa joie de sa correction, de ce qu'elle avait porté des fruits positifs. 2 Corinthiens 2, je peux le lire rapidement, vous n'avez pas besoin de vous y reporter, mais il est écrit « Si je vous attriste, qui peut me réjouir sinon celui qui est attristé par moi ?» 2 Corinthiens 2, versets 2 à 9. J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Il nous faut donc parfois être collectivement remis à notre place, mais c'est rare, c'est rare. Ce qui est intéressant, c'est que la réaction de celui à propos de qui Paul dut corriger la congrégation ne fut pas « Zut, je me suis fait prendre !» Ce qui aurait été une réaction charnelle et la réaction d'un païen, d'un profane ou d'un non-converti, mais la réaction d'un chrétien qui se repentit. Quelle doit être notre optique? Pensons-nous que Dieu prend plaisir à nous humilier, à nous corriger? Ézéchiel 18, verset 23. Prendrai-je plaisir en aucune manière à la mort du méchant, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas plutôt qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive? C'est comme cela que Dieu voit les choses. Il veut que nous soyons formés, que nous devenions comme lui. Et c'est toujours douloureux. C'est toujours douloureux. Mais si nous sommes de vrais chrétiens, nous éprouvons une certaine joie à voir que Dieu agit en nous, que nous avons changé. Il y a des choses qui ont changé dans ma vie. Et ça n'a pas été facile, ça a été douloureux, ça a fait mal. Mais je suis content que ces choses aient été changées dans ma vie. Et même si ça fait mal encore, même s'il y a d'autres changements effectués, eh bien tant pis. Tant pis. Que Dieu fasse ce qu'il a besoin de faire pour que je sois prêt pour son royaume. C'est ça qui compte. Voyez-vous les choses de la même façon? Ézéchiel 33, quelques chapitres plus loin. Ézéchiel 33 et le verset 11. « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Oh, il parlait à la maison d'Israël, mais c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Cela s'applique à nous aussi. C'est pour notre bien que l'Éternel nous reprend, et il ne souhaite pas le faire souvent. Ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes, est-il aussi écrit dans Jérémie. C'est Jérémie qui a dit cela dans Lamentation 3:33. Je répète qu'il existe une différence énorme entre un profane, en somme, toute personne convertie qui se dit « Zut, je ne suis fait prendre » et un vrai chrétien qui cherche de tout son cœur à être sanctifié, à devenir comme Dieu et qui dit, lui, contrairement, « J'ai eu tort, ou j'ai tort, j'ai péché, je veux, je désire franchement, totalement être transformé, cesser de pécher, devenir comme mon Père céleste et son Fils Jésus-Christ. » Septième dernier point, être sanctifié, c'est être délivré de la puissance des ténèbres et être transporté dans le royaume de Dieu. Je répète, être sanctifié, c'est être délivré de la puissance des ténèbres. Est-ce que nous mesurons cela à nouveau? Est-ce que notre réaction encore trop souvent est « Zut, je me suis fait prendre ». Écoutez, ça ne doit pas faire partie de notre vocabulaire. Ça, c'est la réaction charnelle des gens de l'extérieur, des non-convertis. Non, là, quand nous voyons qu'il y a un réajustement à faire, nous devons nous réjouir de ce que nous voyons qu'il y a un réajustement à faire et nous appliquer à ce réajustement. Colossiens chapitre 1, verset 12. Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Pensez au but. Le but est incroyable, incroyable, inimaginable. Ça en vaut la peine. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est comme si c'était déjà fait. Mais nous devons persévérer jusqu'à la fin, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Etc. Vous pouvez lire tout le restant du passage, mais nous avons été transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Paul était toujours très positif. Il ne se lamente pas sur ses épreuves, il y puise au contraire une grande force intérieure. Est-ce notre cas aussi à nous? Rappelez-vous, nous sommes les sanctifiés, nous sommes en train d'être sanctifiés aussi. Et la sanctification, eh bien, exige du travail, des efforts, et parfois de la douleur, des souffrances, mais ça en vaut la peine, ça en vaut tellement la peine. Qui a envie de faire partie de ce monde pourri qu'il y a aujourd'hui? Qui a envie de rester dans ce monde pourri, avec ses valeurs entre guillemets pourries? Est-ce que nous mesurons la valeur des paroles de Paul et de tout ce que nous avons entendu aujourd'hui? Je crains que bien souvent, nous avons encore trop les yeux sur les choses de ce monde et que nous ne mettions pas tout notre cœur à notre sanctification. Oublions ce monde qui n'a rien à offrir. Satan est le dieu de ce siècle. Philippiens chapitre 3, verset 10. Renonçons pleinement à nos voies, aux voies de ce monde, aux voies de Satan et à toutes ces fausses valeurs dont notre société est saturée, littéralement saturée. Et travaillons à notre sanctification, comme Paul le faisait. Philippiens chapitre 3, verset 10. Alors je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui. C'est cela notre sanctification. Peu à peu, nous devenons conformes à lui. Et vous avez déjà commencé, vous êtes déjà conformes à lui dans une certaine mesure. Et c'est un processus qui se poursuit toute une vie. Devenir conforme à Christ. Devenir conforme à notre Père céleste. Penser comme il pense. Avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Posons-nous la question chaque jour, est-ce que je raisonne encore comme Christ? Est-ce que je le fais davantage aujourd'hui qu'hier? Je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour faire venir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est symbolique, la mort, nous mourrons, le vieil homme meurt. Et ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, dit Paul, mais je cours pour tâcher de le saisir, ce prix, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il joue un peu sur les mots ici. Je saisis parce que j'ai été saisi. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Nous avons encore du travail à faire. J'ai encore du travail à faire. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Bon, là, vous avez une attitude proactive. Hein, il ne s'agit pas, bon, on y va. Hein, on avance tout doucement. Paul courait vers le but. Il y a cette attitude de courir. Il est surexcité de ce qui vient. Est-ce que nous sommes comme cela? Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes des hommes faits et ayons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Hein, c'est un processus, espérons que vous arriverez à comprendre ce qu'il veut dire. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Frères et sœurs, vous aimez-vous? Vous sentez-vous bien dans votre peau? Est-ce mal de bien se sentir dans votre peau? Il y a un juste équilibre à atteindre dans ce domaine. Un chrétien a un certain respect de lui-même. Je ne dis pas un certain orgueil, non, je dis un certain respect. Quand nous faisons notre part, Dieu se met à nous façonner. Pour reprendre une très belle analogie biblique, nous sommes l'argile et il est le maître potier. Reportons-nous à Isaïe 64. Isaïe 64. Ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile. Nous sommes l'argile. C'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Parfois, nous contestons avec Dieu. La vie du chrétien n'est pas de tout repos, mais nous sommes engagés. Romains 9. Il reprend cette analogie formidable. Romains chapitre 9, verset 20. Romains 9, 20. Ô toi, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et il va dans différentes directions ici. Il y a plusieurs vases, Hein, nous sommes tous l'argile. Tous les êtres humains sont de l'argile. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, et j'espère qu'ici, le verset 23, c'est ce qui nous décrit, nous, hein, des vases de miséricorde. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il a dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et ma bien-aimée celle qui n'était pas ma bien-aimée. » Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant, les sanctifiés, les enfants de Dieu, les vrais chrétiens. Nous laissons-nous façonner, sommes-nous malléables entre les mains expertes du Dieu Tout-Puissant? Je descendis dans la maison du potier. Voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, il est question de Jérémie 18. Hein, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ?» dit l'Éternel. « Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » À un moment donné, nous devons éprouver une grande joie de ce que Dieu agit en nous et nous change. Et prétendre que rien n'a changé, quand il y a des années que nous sommes dans l'Église, c'est l'insulter, c'est insulter Dieu. Si nous prétendons être chrétiens et qu'après toutes ces années, nous n'avons pas changé, nous sommes exactement les mêmes, toujours les mêmes, c'est insulter Dieu. C'est comme si nous disions son Saint-Esprit, hein, il n'a pas changé grand-chose en moi. Ben, si nous n'avons pas son Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Mais si nous avons et nous, si nous prétendons avoir son Saint-Esprit, il doit y avoir des résultats dans nos vies. Et je pense que nous autres chrétiens, je pense que nous pouvons généralement dire, nous, les membres de l'Église qui sommes dans l'Église depuis un bon bout de temps, nous pouvons dire que Dieu a agi en nous. Il a accompli des miracles en nous, il a fait des choses extraordinaires en nous. pour les rouspéteurs, pour Livray qui est parmi nous toujours, ben eux, c'est une autre affaire. Mais écoutez, laissez Livray où elle est. Mais vous, concentrez-vous. Si vous êtes le peuple de Dieu, et je m'adresse aux convertis, à vous qui êtes le peuple de Dieu, aux vrais chrétiens, pas aux présomptueux, pas à ceux qui viennent pas avec nous parfois, mais qui ne font pas partie du groupe, je ne parle pas de ceux-là, je parle des vrais. Réjouissez-vous de ce que Dieu accomplit en vous. Et un chrétien connaît des transformations dans sa vie. Je vous dis, s'il n'y a pas beaucoup de transformations dans votre vie, je commencerais à m'inquiéter si j'étais à votre place. Psaume 139, verset 1. Psaume 139 et le verset 1. Au chef des chants, David, psaume, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Que c'est beau comme expression, comme image. Tu mets sa main sur moi. Sentez-vous la main de l'Éternel sur votre épaule? Il est là pour vous, il est là, il vous aide, il veut que vous soyez dans votre royaume, il agit dans votre vie. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main me conduira. Si nous avons le Saint-Esprit, Dieu nous conduit. Il est avec nous. Il accomplit des prodiges en nous. Et ta droite me saisira. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand, ses pensées. Nous devons penser comme lui, ses pensées. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Question de ces pensées impénétrables. Nous avons déjà commencé à penser comme Dieu. Nous pensons de plus en plus comme Dieu, comme Christ. Soyez positifs à l'égard de toutes ces choses. Où en est notre sanctification? Il existe une différence énorme entre celui qui se dit « Zut, je me suis laissé prendre » et un vrai chrétien qui cherche de tout cœur sa sanctification. Il cherche à devenir comme Dieu, qui se dit « J'ai eu tort et j'ai tort. Je veux de tout mon cœur être totalement sanctifié, transformé, cesser de pécher et devenir comme mon Père Céleste et son Fils Jésus-Christ. » Notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ accomplissent en nous un dessein magistral. Ils se sont beaucoup investis en nous. Il est grand temps que nous adoptions avec un large sourire les vicissitudes de notre parcours chrétien. Rappelons-nous qu'il a promis de ne pas nous éprouver au-delà de nos forces et que la joie est l'un des fruits du Saint-Esprit. Au lieu de nous dire « Zut, je me suis fait prendre », nous devons à présent nous dire « Je veux être l'un des sanctifiés, pleinement me repentir ». Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat. Et je vous souhaite bon courage et je vous dis au revoir et à bientôt.